On a tous connu ce sentiment, je pense, ce moment où on est dans son salon, on regarde autour de soi et on se dit, on est bien, mais on manque cruellement de place. L'arrivée du petit dernier, ou alors le télétravail qui a transformé la table de la cuisine en bureau permanent,
C'est ça.
ou juste cette envie d'air, de ne plus devoir, je sais pas, jouer à Tetris avec les meubles. Bref, on se sent à l'étroit.
On étouffe un peu.
Exactement. Et la question qui suit, elle est presque toujours la même. On fait quoi? Déménager?
Oula.
Rien que l'idée est épuisante, surtout dans des zones denses comme la région parisienne, où chaque mètre carré est un trésor. Alors, comment on pousse les murs sans partir?
C'est précisément le labyrinthe dans lequel on va essayer de s'aventurer aujourd'hui. Notre but, c'est de fournir une sorte de carte, une carte détaillée pour s'y retrouver.
D'accord.
Extension.
Voilà. L'idée, c'est de transformer cette contrainte, ce manque de place, en une opportunité incroyable.
Une opportunité.
Oui, de gagner en superficie, bien sûr, mais aussi en lumière, en confort, et au final, de créer de la valeur là où on ne pensait pas que c'était possible. C'est vraiment le cœur de notre métier chez Bien Sûr Élévation.
Parfait. Alors attaquons la première voie, celle qui fait un peu rêver en ville, la surélévation. On imagine tout de suite un nouvel étage qui apparaît comme par magie. Mais concrètement, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est aussi simple que de, disons, poser une boîte sur un toit?
Ah, si seulement. En théorie, la définition est simple, oui. La surélévation, c'est ajouter un ou plusieurs niveaux à un bâtiment existant.
D'accord.
On construit vers le ciel sans toucher à l'emprise au sol. On ne sacrifie pas un centimètre carré de jardin ou de cour.
C'est pour ça que c'est la solution idéale en ville, j'imagine.
C'est exactement pour ça. C'est la solution par excellence en milieu urbain dense. Mais dans la pratique, c'est un projet d'une grande technicité. C'est un peu comme une greffe d'organes sur un bâtiment, si vous voulez.
J'aime bien l'image.
Il faut que le greffon soit parfaitement compatible avec le corps existant.
D'accord. Et au-delà du gain de place qui est évident, quels sont les bénéfices qui font que cette option est si stratégique? J'imagine que ça va plus loin que de simplement gagner une chambre.
Absolument. On peut décomposer ça en cinq avantages majeurs qui forment un tout cohérent.
D'accord, allons-y.
Le premier, le plus direct, c'est évidemment la création de valeur patrimoniale.
Logique.
C'est mécanique. Vous ajoutez 40, 50, 60 mètres carrés habitables de qualité, vous faites littéralement grimper en flèche la valeur de votre bien.
Ah oui.
Dans un marché comme Paris, c'est un des meilleurs placements qu'on puisse faire. Bien plus concret que la bourse. On crée de la valeur à partir de rien, ou plutôt à partir de son droit à construire.
D'accord, donc plus de surface, plus de valeur, c'est logique. Mais on entend souvent parler des passoires thermiques. Est-ce qu'on ne risque pas de rajouter un étage mal isolé sur une maison qui l'est déjà?
C'est une excellente question et ça nous amène directement au deuxième avantage, qui est une opportunité phénoménale,
Ah.
la performance énergétique. Une surélévation, ce n'est pas juste ajouter un étage, c'est refaire toute la tête du bâtiment.
C'est-à-dire?
Créer une toiture neuve, des murs neufs, on a donc l'occasion unique d'intégrer les isolants les plus performants, de respecter les dernières normes comme la RE 2020. En fait, on ne se contente pas d'isoler le nouvel étage, on améliore l'isolation de tout le bâtiment par le haut, là où se produisent 30% des déperditions de chaleur.
30%, ok.
Oui, c'est donc un double gain, un confort thermique incomparable et des factures d'énergie qui fondent.
Donc en gros, on résout deux problèmes d'un coup, le manque de place et la mauvaise isolation. C'est puissant.
C'est exactement ça.
Mais pour la vie de tous les jours, comment ça se traduit?
Eh bien, c'est le troisième point, la transformation du cadre de vie. On ne fait pas que rajouter des pièces, on repense les flux, la lumière.
Donnez-moi un exemple concret.
Imaginez, vous vivez dans un appartement familial et d'un coup, vous créez un étage complet dédié aux enfants, avec leur chambre, leur salle de jeu.
Ah oui, le rêve.
Et le niveau du dessous redevient un espace de calme pour les parents. Ou alors, dans une maison, on peut créer une suite parentale spectaculaire, avec sa salle de bain, son dressing, baignée de lumière, et avec une vue qu'on ne soupçonnait même pas.
Une nouvelle perspective.
On a eu des clients qui ont redécouvert leur quartier, avec une vue imprenable sur les toits de Paris qu'ils n'imaginaient pas. Ça change la vie, littéralement.
Là, ça fait rêver. Mais le rêve peut vite tourner au cauchemar logistique. Je pense aux travaux.
Bien sûr.
On s'imagine devoir déménager pendant des mois, vivre dans la poussière, le bruit. C'est souvent le frein principal.
Et c'est là qu'intervient le quatrième avantage, qui est souvent décisif, un chantier en site occupé.
En site occupé. On peut rester chez soi.
Dans la quasi-totalité de nos projets, oui, les habitants peuvent rester chez eux. Notre méthode de travail consiste à construire par le dessus.
Comment ça?
Souvent, On utilise des structures légères, comme l'ossature bois, préfabriquées en atelier. Elles sont ensuite grutées et assemblées en quelques jours seulement.
D'accord, donc c'est très rapide.
Et la percée, c'est-à-dire le moment où l'on connecte le nouvel étage à l'existant en créant l'escalier, n'intervient qu'à la toute fin du chantier.
Ah, d'accord.
Bien sûr, il y a des nuisances, on ne va pas se mentir, mais elles sont maîtrisées et sans commune mesure avec une rénovation lourde classique.
Et le fait de ne pas avoir à payer un loyer en plus du crédit travaux, ça change tout.
Ça change absolument tout.
D'accord, ça c'est un argument massu pour un particulier. Mais vous avez parlé de copropriété, et là ça me semble encore plus complexe. Comment on met 50 personnes d'accord? Et quel est leur intérêt?
Vous mettez le doigt sur un point crucial, et ça nous amène au cinquième avantage qui est le plus contre-intuitif et peut-être le plus puissant pour une copropriété.
Je vous écoute.
C'est la baisse des charges.
La baisse des charges, ça paraît fou.
C'est fou, mais c'est pourtant simple. En surélevant un immeuble, on crée de nouveaux appartements, donc de nouveaux lots de copropriété.
Mmh.
Or, les charges communes fixes, l'entretien de l'ascenseur, le nettoyage, l'assurance de l'immeuble, sont réparties sur plus de propriétaires.
Ah, donc la part de chacun diminue.
La part de chacun, y compris les anciens copropriétaires, diminue mécaniquement.
Attendez, ça sonne presque trop beau pour être vrai. La copropriété finance des travaux et au final, les habitants payent moins de charges. Comment fonctionne ce montage que vous appelez, je crois, une micro-promotion ?
Exactement. C'est un montage financier et juridique très intelligent. Pour faire simple, la copropriété est propriétaire d'un droit à construire sur son toit.
Un actif dormant, en quelque sorte.
Précisément. Souvent, elle n'a pas les fonds pour l'exploiter. Notre rôle, c'est de l'aider à valoriser cet actif. On réalise une étude de faisabilité, on conçoit les futurs appartements et on trouve un acquéreur pour ce droit à construire.
D'accord.
Le produit de cette vente finance alors non seulement la construction des nouveaux étages, mais aussi souvent de gros travaux de rénovation pour l'ensemble de l'immeuble.
Comme quoi, par exemple ?
Un ravalement de façade, la rénovation de la cage d'escalier, la mise aux normes de l'ascenseur. Des travaux qui auraient coûté une fortune à chaque copropriétaire.
Et là, ils sont financés par la vente du toit.
Exactement. Au final, l'immeuble est valorisé, rénové, les charges baissent et ça n'a rien coûté aux habitants. C'est une opération gagnant-gagnant.
C'est fascinant. On part d'un toit vide et on arrive à financer la rénovation de tout un immeuble.
C'est ça.
On comprend bien que la surélévation, c'est bien plus qu'une simple question de briques. Mais c'est une solution très verticale. Qu'en est-il si on a la chance d'avoir un bout de jardin et qu'on rêve plutôt d'une grande baie vitrée qui donne sur la pelouse?
Ce qui nous amène logiquement à l'autre grande option, l'extension. Si la surélévation, c'est conquérir le ciel...
L'extension, c'est conquérir le sol.
C'est dialoguer avec le sol, avec le jardin. Le concept est horizontal. On agrandit la maison au rez-de-chaussée pour prolonger l'existant.
Et là, l'objectif est différent, j'imagine.
Oui. C'est la solution idéale pour transformer les pièces de vie, agrandir un salon trop petit, créer une cuisine dînatoire immense où toute la famille peut se retrouver, ou ajouter une chambre de plein pied avec un accès direct à la terrasse.
Et en termes de sensations, de vécu, qu'est-ce que ça apporte différent ?
Ça change complètement le rapport entre l'intérieur et l'extérieur. On vient flouter la frontière entre la maison et le jardin.
On fait rentrer la nature à l'intérieur.
C'est ça. Avec les grandes baies vitrées d'aujourd'hui, on a l'impression que le jardin rentre dans le salon. C'est aussi une solution formidable pour l'accessibilité.
Ah oui.
Si on anticipe ces vieux jours, ou si on doit accueillir un parent âgé, créer une suite de plein pied évite les contraintes des escaliers. C'est une autre philosophie de vie, plus tournée vers l'horizon que vers la verticale.
Mais le revers de la médaille, c'est consacrer une partie de son jardin, non ?
Tout à fait. C'est le principal compromis de l'extension. On gagne en surface habitable, mais on perd en surface de jardin.
Il faut faire un choix.
Oui, et tout l'art de l'architecte est de concevoir un projet qui s'intègre si bien qu'il valorise le jardin restant, par exemple en créant un patio ou une terrasse protégée.
Et j'imagine qu'on ne peut pas creuser n'importe où, surtout en région parisienne où le sous-sol peut réserver des ingosies.
Vous avez raison. Les sols parisiens et de la petite couronne sont un vrai gruyère. Ancienne carrière, cave, sol argileux qui bouge.
Donc, danger.
Une étude de sol est absolument impérative avant le moindre coup de pelle. C'est une étape non négociable qui évite des catastrophes coûteuses plus tard. Et c'est aussi un projet qui peut avoir plus d'impact sur le voisinage, en termes d'ombre portée ou de vis-à-vis.
D'accord. Donc, si je résume, on a deux philosophies. La surélévation... chirurgicale et verticale, idéale pour la densité urbaine.
C'est ça.
Et l'extension, plus organique et horizontale pour ceux qui ont du terrain et veulent se connecter à l'extérieur.
Exactement.
Mais dans les deux cas, on sent que c'est un parcours semé d'embûches. Le PLU, les études techniques, les autorisations, le choix des artisans, c'est un métier à plein temps de gérer un tel projet.
C'est exactement ça. Et c'est là que l'improvisation n'a vraiment pas sa place. Chaque maison a son histoire, chaque parcelle ses contraintes, chaque PLU...
Le fameux plan local d'urbanisme.
Oui, avec ses propres règles parfois absconses sur les hauteurs, les matériaux, l'aspect des façades. Naviguer dans cette complexité, c'est notre cœur de métier.
Vous êtes un peu des traducteurs, alors?
On est le chef d'orchestre, l'interlocuteur unique qui accompagne le client de la page blanche jusqu'à la remise des clés. On s'occupe de tout, la conception avec les architectes, les études de structure, le dépôt du permis de construire, la sélection des entreprises et le suivi de chantier.
Parlons de l'éléphant au milieu de la pièce, le budget. C'est la source d'angoisse numéro un. On connaît tous des histoires de travaux où le devis initial double en cours de route à cause de mauvaises surprises.
Malheureusement, oui.
Comment est-ce qu'on se protège de ça?
C'est le pilier de notre philosophie. Pour nous, la sérénité du client est aussi importante que la qualité de la construction.
Et concrètement, ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'on s'engage sur un prix global et forfaitaire.
C'est-à-dire?
Une fois le projet défini dans les moindres détails et validé, le prix est ferme et définitif. Il n'y a pas d'astérisque en bas de page. S'il y a une mauvaise surprise, comme une poutre qu'on découvre en mauvais état...
C'est pour vous.
C'est notre responsabilité de l'avoir anticipé dans nos études, c'est notre problème, pas celui du client. Cette transparence permet de construire une relation de confiance. Sans confiance, un projet de cette ampleur ne peut pas bien se passer.
Et derrière cette promesse, il y a des visages, j'imagine. L'entreprise, c'est avant tout une aventure humaine. Elle est menée par les deux co-dirigeants, Benjamin Potel et Benjamin Chiron.
C'est exact. Et comme on aime bien le dire avec un clin d'œil, Benjamin et Benjamin, vous ne pouvez pas vous tromper.
C'est facile à retenir en tout cas.
Au-delà de la blague, ça représente notre engagement personnel dans chaque projet. Un projet d'agrandissement, c'est toucher à l'intime, au foyer des gens.
Bien sûr.
On ne construit pas seulement des murs, on construit un futur lieu de vie, de souvenirs. Et cette dimension humaine est fondamentale pour nous.
Pour conclure, si on devait synthétiser, on a donc deux outils extrêmement puissants pour faire évoluer sa maison avec sa vie. La surélévation pour prendre de la hauteur et réinventer la ville, l'extension pour s'ancrer au sol et dialoguer avec la nature. Mais le vrai message, c'est que la réussite d'un tel projet ne tient pas tant au choix de la solution qu'à la qualité de l'accompagnement.
C'est la synthèse parfaite. La clé, c'est d'avoir un partenaire expert qui peut analyser objectivement votre bien, vos besoins, les contraintes, et vous dire « voilà la meilleure stratégie pour vous ».
Du sur-mesure, en somme.
Toujours. Parce que chaque maison est un prototype. La réponse doit être du sur-mesure. Et pour finir, si je peux, j'aimerais laisser une dernière question en suspens.
Allez-y.
Au-delà des plans et des mètres carrés, la vraie interrogation qu'un projet d'agrandissement soulève, c'est « quelle nouvelle histoire veut-on écrire chez soi ?»
C'est une belle question.
L'espace que l'on va créer n'est pas une fin en soi. C'est le décor de la vie de famille, du travail, du bien-être de demain. Alors avant de penser au mur, il faut peut-être se demander quelle forme on veut donner à cette nouvelle histoire.